Bonsoir Julie Gacon.
C'est l'heure de Soft Power.
C'est l'heure de Soft Power et notamment ce soir on rendra hommage, parmi d'autres sujets, mais on rendra hommage à qui vous savez.
Michel Legrand.
Michel Legrand, vous étiez plutôt, quand vous étiez jeune, vous étiez plutôt quoi, Peau d'âne, Demoiselle de Rochefort, Parapluie de Cherbourg.
Zoé Sfez, on lui dit ou pas?
Oui, on lui dit.
Vous
on lui dit, ah bah on était forcément Demoiselle de Rochefort.
Pourquoi ça?
Parce que nous sommes toutes les deux jumelles.
Ah c'est vrai.
Nous sommes deux sœurs jumelles. Ça,
vous chantiez quand vous étiez petite?
Évidemment qu'on chantait, moi avec Pauline. Et
vous voulez pas nous le faire là un petit peu?
Non.
Ré, mi, fa, sol, 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 ré, do.
Voilà.
On l'aura fait.
Super, ah ça fait plaisir. Enfin ça fait plaisir, c'est triste. On est triste avec Zoé.
Soft Power, il est 19h sur France Culture.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
Bienvenue donc dans Soft Power, magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture en direct jusqu'à 20h30. Ce soir, nous rendrons donc hommage dans la première partie de cette émission au compositeur Michel Legrand qui nous a quittés hier, en générique d'ailleurs, à l'instant nous reprenions sa bande originale du film Un été 42 et la Michael Jackson Happy, une reprise de Michel Legrand. Nous reviendrons au cours de cette émission sur son parcours, en entretien, en musique, tout ça, au cours de la première partie de Soft Power. Le Venezuela est-il au bord de la guerre civile dans un pays où les médias sont muselés et l'accès à Internet de plus en plus rare? État des lieux à 19h30 avec notre correspondant à Caracas. Et puis, mon invité ce soir est Hervé Lemoine, le directeur du Mobilier National, mais aussi des manufactures des Gobelins de Beauvais, ainsi que des ateliers de tapis et de dentelles. Et tout ça à l'occasion de la restauration de la salle des fêtes du Palais de l'Élysée. Bonsoir Hervé Lemoine.
Bonsoir.
C'est pas difficile de restaurer à grands frais la salle des fêtes de l'Élysée au moment des Gilets jaunes?
Alors, c'est pas une restauration à grands frais, c'était surtout une nécessité patrimoniale de restauration de tapisserie, donc un chantier monument historique prévu de longue date.
Excellence française d'une certaine manière.
Absolument.
20h, votre invité innovation Zoé Sfez s'intéresse au cinéma et aux vidéos en ligne. En Afrique.
Il s'appelle Tony Bakang, c'était le fondateur du regretté AfroStream, site qui se voulait être le Netflix afro-américain, en tout cas avec des contenus africains et caribéens. C'est une plateforme de streaming qui a connu pas mal de succès mais qui a dû fermer l'année dernière. Aujourd'hui, Tony Bakang appartient à The Family, une entreprise qui accompagne les startups et notamment celles qui souhaitent se lancer pour le coup en Afrique. On va parler avec lui justement de ce marché de la vidéo en Afrique. De quelle nature est-il? Comment peut-on finalement s'y implanter? Quels sont les enjeux? On y revient ensemble à 20h.
20h10, le club de la presse numérique. Nous nous demanderons ce soir s'il faut lever l'anonymat en ligne et aussi sur les réseaux sociaux. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Cette émission est réalisée par Sonia Le Glen avec un régie Ludovic Auger. Elle a été préparée par David Laveau avec pour les réseaux sociaux Clara Brelot. Vous pouvez suivre cette émission également sur Twitter au mot-clé Soft Power ainsi que sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, également sur Spotify, évidemment sur France Culture jusqu'à 20h30 en direct. Homme de tous les genres et de toutes les époques, le compositeur français mondialement reconnu Michel Legrand nous a quittés ce week-end à l'âge de 86 ans. France Culture lui rend hommage ce soir et nous aimerions mettre l'accent dans cette émission Soft Power en particulier sur l'œuvre, disons, passe-muraille de Michel Legrand, capable d'atteindre l'excellence dans la musique de films populaires, parfois kitsch, les romances de crooner, la pop, on écoute d'ailleurs, je l'ai dit, une reprise de Michel Legrand par Michael Jackson, le bebop à ses débuts, le jazz l'ayant particulièrement influencé, mais aussi le classique, comme en atteste ses prestations avec Nathalie Dessé, Maurice André, Barbara Streisand ou Jesse Norman, parmi tant d'autres. Il faut dire que Michel Legrand était à la fois un pianiste, un chef d'orchestre, mais aussi un arrangeur et un chanteur, autant de cordes à son arc, pourrait-on dire. Mais c'est d'abord comme musicien de comédie musicale et compositeur de musique de film qu'il restera pour longtemps l'un des symboles de la musique française de la deuxième moitié du XXe siècle. Ce matin, nous fredonnons tous un air de Michel Legrand, a tweeté le ministre de la Culture, Franck Riester. Alors de fait, il a travaillé avec les plus grands déjà du jazz au début, que ce soit Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, alors qu'il n'avait pas encore 30 ans. Et bientôt, Sarah Vaughan. Il a accompagné Henri Salvador, Maurice Chevalier, Zizi Jeanmaire ou Claude Nougaro, dont on écoute justement le célèbre morceau Le cinéma de Michel Legrand.
Sur l'écran noir de ma nuit blanche, où je me fais du cinéma.
Côté cinéma, justement, Michel Legrand travaille avec Joseph Losey pour Lola, Jean-Luc Godard, pour Une femme est une femme, et bien sûr, durablement avec Jacques Demy. Pour Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg ou Peau d'âne, plus de 9000 qu'ils feront ensemble. Rappel de ce parcours en entretien et bien sûr en musique sur France Culture.
Et voici la dernière page, nous allons l'offrir à Michel Legrand.
Allô, pourrais-je parler à Michel Legrand, s'il vous plaît ?
Oui, c'est moi.
Bonjour Michel Legrand, c'est la RTF Paris-Île-de-France.
Enchanté, enchanté, je suis enchanté, formidable.
Combien de temps que vous faites de la musique, Michel Legrand ?
Oh, je fais de la musique depuis que j'ai 5 ans, je crois. Et ce que j'aimais bien, c'était rejouer au piano à un doigt ce que j'entendais à la radio, enfin les airs que j'entendais.
Pour moi, la vie commence bien sûr par la musique.
Viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
Faire de la musique, pour moi, c'est un jeu.
Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Vous savez, d'abord, on fait pas la musique, on l'apprend. Non. Et puis même quand on prétend qu'on l'a fait, on devrait l'apprendre encore pendant longtemps.
Tu crois ?
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux.
Je trouve qu'il faut planer dans tous les sens. Il faut planer absolument... L'âme, le cœur, l'esprit doit planer, enfin, beaucoup, beaucoup, tout le temps. Je crois que c'est sans réfléchir qu'on réfléchit le mieux. Je crois que c'est en fermant les yeux qu'on voit le plus clair.
Pour moi, le bonheur, c'est de la musique. Et quand il y aura de la joie partout, ce sera vraiment le triomphe de la musique. La musique, c'est un mystère qu'on organise, malgré soi. Je veux dire que... Il est dommage que la musique ait besoin d'une technique. Mais je crois que c'est comme toutes les choses. La musique, je crois que c'est l'amour. Je crois que c'est... qu'on recrée l'amour. Je crois que c'est... l'invention de ce qu'on ne peut pas inventer.
Vous désirez...
un parapluie.
Un parapluie. Où étais-tu ? Là, en face.
Ce qui m'inspire, c'est les visages, les gens, l'histoire, ce qu'il y a sur la pellicule.
Vous le regardez combien de fois ?
Oh, ça dépend. Des fois une fois ou deux ou trois, des fois 20.
Je travaille toujours, je compose toujours, je travaille mon piano toujours. Ce qui fait que le jour où je cherche quelque chose, je dis tiens, j'ai envie d'écrire une chose comme ça, le puits que j'ai pompé toute ma vie, l'eau, est un ras-bord en haut.
Madame Frédéric, je peux avoir la musique ?
Alors, quand je veux quelque chose, j'ai un tout petit coup à donner et l'eau ruisselle de mon puits.
C'est Lola, celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau, celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager, les hommages des hommagés, les bravos des braves gars, les hurrahs, les viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire et s'en tenir là, c'est moi, c'est Lola.
Michel Legrand, en vacances, sur la place de l'Étang. Pour vous, les vacances, qu'est-ce que c'est ?
Pour moi, le mot vacances n'exprime pas grand-chose. Je veux dire, on est en vacances quand on est mort, finalement. C'est-à-dire que là, vraiment, les vacances sont totales, mais... Tant qu'on est vivant, que l'esprit, que les muscles de partout fonctionnent, je crois qu'il faut s'en servir et...
Pour l'amour du ciel, n'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous ? Rien qui puisse vous distraire ?
Je désirerais que Podane me fasse un gâteau.
Podane, dites-vous ?
Préparez votre pâte dans une...
Est-ce que vous pensez que la France n'est pas encore prête pour la comédie musicale ?
Non, je crois que la France est prête et le public est prêt, ils aiment la musique, je vois pas pourquoi on leur donnerait pas des très bonnes comédies musicales. Je sais qu'il y en a plein qui en ont écrit là pour la rentrée qui s'annonce et je souhaite qu'elle soit bonne parce que si jamais ça ne marche pas, les gens vont encore dire que la comédie musicale ne marche pas en France.
On croit toujours a priori que ça va être facile, vite fait, que c'est évident puisqu'on l'imagine, on la respire déjà, mais on a affaire à des milliers de problèmes techniques qu'il faut résoudre à chaque fois que vous posez une note, ça pose un problème.
Entre ça et ça, on peut mettre donc un... Avec les chœurs, est-ce que je peux employer les garçons qui font des palambellés, des trucs comme ça?
Et la reprise de l'unisson, tous en chœur à la fin.
Ok, regarde combien de temps ça fait.
En travaillant beaucoup et en créant beaucoup, vous avez le privilège de vous connaître un petit peu mieux vous-même. Et je crois que c'est le moteur principal des créateurs.
Et après, vous partez ?
Non, je pars jamais. Je reste toujours. Ma vie commence seulement maintenant. Auparavant, je pensais toujours au lendemain, au surlendemain, ou à la veille, à l'avant-veille, qu'est-ce que je vais faire ? Aujourd'hui, j'ai découvert grâce à ma chaque comment on vit chaque 3 minutes, chaque millième de seconde, chaque parole, chaque regard, chaque sourire. Je t'aime, mon amour, pour toujours.
Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Voilà, en parole et en musique, un résumé, un survol d'un parcours sur France Culture, celui ce soir de Michel Legrand. Michel Legrand, Zoé Sfez, qui a beaucoup de passionnés, d'amoureux de sa musique ici à la Maison de la Radio, et notamment de passionnés du compositeur de comédie musicale.
Oui, parce que je pense que c'est beaucoup pour ça qu'on le connaît, comme toutes les petites filles, et comme une jumelle. Je fais partie d'une génération d'enfants qui sont très nombreux. Il y a un très beau film qui s'appelle Les Demoiselles ont 25 ans qui rend bien compte de l'engouement qu'il y a eu pour Les Demoiselles de Rochefort, mais bien avant ça pour Les Parapluies de Cherbourg. Alors je sais que Michel Legrand, à une époque de sa vie, a regretté que parfois on le résume essentiellement à ces trois comédies musicales-là en France, qui sont celles qui sont probablement les plus célèbres et les premières, faut le dire.
Il y a d'autres films.
Il y a beaucoup d'autres films. D'ailleurs,
notamment Lola.
Lola, le premier film
de Jacques Demy et non pas de Joseph Losey, puisque c'était Le Messager dont je parlais tout à l'heure.
Exactement, donc Lola, premier film de Demy. Ensuite, ils se suivent, ils ont ce grand projet quand même des Parapluies de Cherbourg. Il faut quand même dire que les Parapluies de Cherbourg est un sommet indépassé en termes de 7e art.
C'est
un projet indépassable, mais un projet qui n'a pas été répété d'ailleurs, c'est-à-dire un film entièrement chanté. C'est quasiment 2 ans de genèse et 8 mois où Michel Legrand et Jacques Demy sont tous seuls dans une maison à Noirmoutier et composent, écrivent, calculent les temps de déplacement des acteurs pendant qu'ils essayent des phrases, pendant qu'ils trouvent autre chose. On est sur une difficulté majeure qui est de mettre en scène des phrases extrêmement quotidiennes de la vie. Où est le marchand de couleurs, s'il vous plaît, faudrait que je change de coiffure, et c'est très beau comme ensuite ça se reproduit pour Les Demoiselles de Rochefort, qui est un film en apparence très facile, qui était extrêmement complexe à mettre en musique pour Michel Legrand, parce que toutes les chansons sont en alexandrin, ce qui est une très grande difficulté, faire de la vraie belle musique avec systématiquement 12 syllabes, c'était extrêmement compliqué pour lui. Donc il y a un travail extrêmement riche et de grands échanges entre Michel Legrand et Jacques Demy, qui est un travail extrêmement important. Et il faut dire que c'est quelque chose qui, je pense, a beaucoup servi à Legrand ensuite dans la manière dont il a continué à travailler sur des musiques du film. Déjà, il faut dire que c'est grâce à l'Oscar des Parapluies de Cherbourg qu'ensuite il va pouvoir aller aux États-Unis, qu'il va travailler sur l'affaire Thomas Crown. D'ailleurs, l'affaire Thomas Crown, donc Les Moulins de mon cœur, The Windmills of My Heart, il a joué un rôle assez inédit en tant que compositeur de musique de film. Sur ce film-là, il y avait des problèmes au montage et finalement, c'est grâce à sa musique, c'est sur sa musique que les monteurs se sont calés. Là, on écoutait Le Pont Transborder qui est l'ouverture des Demoiselles de Rochefort et qui était un très bel exemple en fait de tout ce qui fait que Michel Legrand est un très très bon compositeur de musique de film. Ça résume à peu près tout, parce que là on vient de l'entendre. À la fois on entend la très très grande qualité de compositeur classique qu'il a, la grande capacité d'arrangeur, le grand jazzman qu'il est, parce qu'évidemment on lui a même reproché d'avoir tout pompé au jazz, mais en l'occurrence l'excellent pianiste qu'il est également, on l'a entendu là, et puis cette grande force de la narration dans la musique. Et je vais peut-être terminer là-dessus sur cette collaboration de Michel Legrand qui est fondatrice à la fois de ce qu'il a fait ensuite. Pourquoi ? Parce que Demy est un cinéaste et lui est un musicien, Legrand, et qui sont tous les deux très formellement, immédiatement séduisants dans la forme, lumineux, brillants. Et les dialogues de Jacques Demy, on s'en aperçoit quand on grandit, c'est des films qu'on peut voir petits, et ensuite quand on grandit, ils prennent une toute autre saveur. Il y a énormément de second degré, il y a énormément de distance, il y a énormément de noirceur aussi. Les Demoiselles de Rochefort auraient pu être un film qui se termine très mal. Jacques Demy était autant un célébrateur de la vie qu'un dépressif, et la musique de Legrand est exactement ça. La musique de Legrand permet ça, c'est-à-dire qu'elle est à la fois immédiatement séduisante et en même temps elle reste d'une richesse, d'une rigueur et d'une grâce infinie qui ne vieillit quand même absolument pas, faut quand même le dire. C'est très très rare d'avoir un musicien qui, depuis plus de 50 ans, compose. Il y a très peu de choses de Legrand qui vieillissent.
Et puis la mort aussi de Françoise d'Orléac au moment même de la sortie du film, donc les Demoiselles Rochefort. Catherine Deneuve qui se retrouve seule.
Oh, bah, ça c'est ce souci. On se lance sur ce sujet, vous me faites pleurer, Frédéric Martel. Bon, ça c'est intéressant. C'est un des grands débats. Comme vous le savez, la sœur de Michel Legrand s'appelle Christiane Legrand. C'était une grande chanteuse. Elle a doublé plusieurs fois Catherine Deneuve, pas dans Les Parapluies de Cherbourg. Là, c'est l'immense Danielle Licari. Christiane Legrand, qu'on peut saluer, qui était cette merveilleuse chanteuse qui a chanté dans des très très beaux, très belles formations de swing, les Double Six, si vous vous rappelez de cette très très belle chanson. On est dans une famille globalement de musiciens, parce que Michel Legrand était un fils, le père de Michel Legrand avait un orchestre, sa sœur était chanteuse. Il y a effectivement, comme on l'a entendu dans ce très beau montage de Sonia Le Glen, une forme de culture absolue de la musique que lui n'a cessé d'enrichir toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a quand même été formé par Nadia Boulanger, formation extrêmement classique, très rigoureuse, très riche. Ensuite, il découvre le jazz. Ensuite, quand il se met au baroque pour Lozay, il le fait extrêmement bien. C'était, je crois, un grand travailleur et un type qui se remettait tout le temps en question.
صيف السن انتهى بسرعة وحمرت أحراش الغار والمرة اللي شعرها أحمر مثلن شعلاني بالنار لا بداية ولا نهاية والوقت
Et puis, on peut parler aussi d'un véritable soft power français pour Michel Legrand avant la lettre, une influence véritablement mondiale par ses musiques de films, les reprises innombrables qu'il a suscitées par Frank Sinatra, Michael Jackson, on l'a dit, à l'instant Hiba Tawaji dans Les Moulins de mon cœur, en arabe, mais aussi plus récemment le succès de La La Land de Damien Chazelle qui rendait hommage ainsi dans ce film à Michel Legrand.
À Jacques Demy et à Michel Legrand, c'est la raison pour laquelle il a voulu faire des comédies musicales. Si vous connaissez un peu les films de Jacques Demy et que vous avez vu le film de Damien Chazelle, vous allez voir que tout est clin d'œil à Jacques Demy et à ces trois films qu'ils ont fait ensemble, notamment la séquence d'ouverture qui répond à celle du pont qu'on écoutait tout à l'heure, c'est-à-dire l'ouverture sur, en l'occurrence, une autoroute et les bouchons de Los Angeles. Donc effectivement, alors ce qui est très intéressant avec Michel Legrand, c'est qu'en fait son tout premier disque, il a même pas 20 ans, son tout premier disque qu'il fait à 22 ans, c'est une commande de la Columbia qui l'a repéré et qui lui demande de produire un album qui s'appelle I Love Paris et qui a un arrangement,
à l'époque il est arrangeur, quelques centaines,
il touche mais rien, c'est-à-dire des cacahuètes, et le truc se vend 5 millions d'exemplaires aux États-Unis. Et donc son boulot, c'était d'arranger les chansons de jazz les plus célèbre dédié à Paris. Donc c'est très drôle, comme son tout premier boulot est en fait un boulot de soft power. C'est ça qui va faire de lui ensuite le compositeur qu'il est, parce que du coup la Columbia, embarrassée de l'avoir si mal payé, va lui commander un autre disque, et c'est comme ça qu'il commence finalement le métier. Effectivement, ce qui est très beau avec Michel Legrand, c'est que très vite après le succès des Parapluies, il s'installe à Hollywood. Il gagne quand même 3 Césars, dont un avec Kettle, son dernier, ce qui est rare pour un compositeur de musique de film. J'ai vérifié, Alexandre Desplat, qui est notre autre grand compositeur de musique de film national, n'en a que 2 pour le moment. Il n'a pas dépassé Michel Legrand. Et effectivement, il a chanté avec, il a beaucoup œuvré, par exemple, au rapprochement entre les stars de la musique classique et celle du jazz. Par exemple, Jessie Norman veut faire un disque de jazz, elle va le faire avec Michel Legrand. Sarah Vaughan travaille pas mal avec lui, et ça, dès ses débuts. Et là, on a entendu Iba, cette fameuse Iba qui a gagné The Voice en France et qui se produit régulièrement en chantant les Moulins de mon cœur en arabe. Iba Tawaji, et qui est une star libanaise. Et ce qui est aussi important de noter, c'est que il a beaucoup travaillé aux États-Unis, notamment avec Barbara Streisand. Il a composé tout le film, toute la musique de son film Yettle, qui est un film dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui a été un film relativement important à son époque.
Wander me, wander me, then by a fire pleasure me, peaceful me, and in the silence quietly whisper me, forever me.
Michel Legrand avait aussi un rapport passionné, quoique toujours un peu entre amour et haine, pour les États-Unis. Écoutez-le, là, dans un entretien avec Jacques Chancel, où il parle de ces gens, en l'occurrence, les Américains.
J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec ces gens que je commence à connaître de mieux en mieux. Je les estime beaucoup. Ils sont très professionnels, ils sont très sensibles, ils aiment bien, enfin, de la musique, je crois, peut-être même plus que les Français.
Professionnels, en France, on l'est beaucoup moins.
Je crois, oui. Mais par ailleurs, en France, on a une fantaisie que les Américains ne possèdent pas, enfin, qui est aussi une grande qualité. Alors peut-être, c'est un petit peu, je sais pas, la fantaisie française, le professionnalisme qui leur a plu. C'est lui, j'ai aucune idée. Enfin, vous savez, je veux dire, il faudrait que je me coupe en morceaux, en tranches, et que je me radiographie cette fois, pour connaître le résultat. Ça, je sais pas du tout.
Une chose est sûre, ce succès, vous l'avez voulu, en tout.
Bah, c'est-à-dire, oui, je l'ai souhaité, bien sûr, je veux dire, c'est une récompense, c'est le plus joli morceau de sucre, enfin, n'est-ce pas, de la boîte.
Michel Legrand, à l'instant, est interviewé par Jacques Chancel dans les années 70.
Sur les Américains.
Sur les Américains.
Mais en fait, quand il est allé à Hollywood, il a fait une dépression quand même.
Voilà,
il a été très
malheureux. Il est revenu de Los Angeles après quelques années. Et puis en même temps, on sentait une forme d'amertume un peu ces dernières années qui s'est un peu atténuée, peut-être même. Qui a disparu avec lorsqu'il a son troisième noces avec la comédienne Masha Merrill, une amour de jeunesse qu'il répouse à plus de 80 ans.
Qu'il répouse, il l'avait pas épousé.
Qu'il épouse.
Qu'il épouse à 80. Mais c'est assez beau parce que, en fait, Michel Legrand, je me rappelle très bien que quand j'étais petite, à un moment donné, on allait à la FNAC et il n'y avait plus ses disques. Il n'y avait pas ses disques dans les bacs. C'était difficile de le trouver. Il a eu une petite période de désamour comme ça. Et là, je trouve assez beau qu'il nous quitte à 86 ans. Il a eu le temps, donc, de retomber sur cette femme, Masha Merrill, donc, comédienne, qu'il avait croisée en 64.
Et il y avait même une relation.
Il y avait eu une relation tout à fait platonique. Chacun, d'ailleurs, le dit. Il en parle très bien dans le magnifique Avoine Nue qui lui a été consacré par la chaîne, que je vous invite tous à réécouter, en Avenue de 2014. Mais dans l'absolu, c'est un monsieur qui, bon, d'une part, a retrouvé donc visiblement un bonheur conjugal absolu, et ça c'est très beau, et on en est heureux, qui du coup était, je pense, beaucoup plus généreux de sa personne. Il est beaucoup allé, là, par exemple, très récemment, dans les médias, ce qu'il faisait de moins en moins. Et puis, il y a eu effectivement cet hommage très direct de Chazelle, qui probablement lui a fait beaucoup plaisir. Il y a eu ses derniers projets avec Nathalie Dessay, et il y a eu, de manière générale, une forme de reconnaissance pour son travail avec ce spectacle de Podane dont nous avions parlé ici,
voilà, qui est au théâtre Marigny.
Voilà, donc il y a eu quelques
mois, très touchant, jusqu'au
très touchant.
17 février. Voilà. On peut le voir au théâtre Marigny à Paris, Podane. Sonia Leglen a préparé et réalisé avec les équipes de l'INA la séquence d'hommage à Michel Legrand que nous avons entendu tout à l'heure, avec notamment des extraits d'émissions de France Culture Profil en 1970, les grands entretiens en 2013 et à voix nue, ainsi que Radioscopie de France Inter par Jacques Chancel en 1972, l'ORTF en 1970, extrait du Divan de Marc-Olivier Fogiel en 2018 et un extrait d'un documentaire Michel Legrand sans demi-mesure qui sera diffusé demain soir à 20h.
22h30 sur Arte. Arnaud Leporte consacrera son émission La Dispute à la disparition de Michel Legrand également demain soir sur France Culture. Et puis, pour terminer cette séquence un peu dommage, dans un autre cadre et une autre personne, nous avons appris ce dimanche la disparition d'une autre figure de la culture, le journaliste et critique de cinéma Henri Chapier, qui avait créé Le Divan, justement, sur France 3, et avait cofondé la Maison européenne de la photographie à Paris.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
19h pratiquement 26 minutes en direct sur France Culture. Vous écoutez Soft Power, second sujet de cette émission ce soir. Nous nous intéressons au Venezuela et nous partons justement pour le Venezuela avec en direct de Caracas Benjamin Delisle. Bonsoir Benjamin Delisle.
Bonsoir.
Vous êtes correspondante de Libération de Radio France sur place. Le point peut-être pour commencer sur la situation au Venezuela ce dimanche entre coup de force de Juan Guaido, autoproclamé président par intérim cette semaine, première défection de militaires et assemblée populaire.
Oui, Juan Guaido essaye de mettre un peu plus la pression sur l'armée pour essayer de la faire changer de camp, puisque depuis mercredi et son coup de force, comme vous l'avez dit, l'armée reste fidèle à Nicolas Maduro. Alors, il y a certes des défections, comme celle d'hier, d'un colonel basé à Washington qui a décidé de reconnaître Juan Guaido comme président légitime et de rejeter la présidence de Nicolas Maduro. Mais globalement, ce genre de défection reste un effet isolé, comme la mutinerie, par exemple, qu'il y a eu il y a une semaine. Globalement, l'armée reste du côté de Nicolas Maduro, mais ce genre d'événement montre qu'il y a une fracture qui est en train de se créer. Et Nicolas Maduro, d'un côté, comme Juan Guaido de l'autre, vont tout faire pour peser sur l'armée qui sera finalement la clé de voûte de cette crise dans les prochains jours.
À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, Benjamin, cette semaine, avec l'organisation à une date qui reste encore à confirmer d'une prochaine grande manifestation générale de l'opposition ?
Oui, alors, cette semaine, il y en aura une. Il devrait y en avoir plusieurs. Juan Guaido vient d'annoncer qu'il donnerait les dates ce soir à 20h, heure de Caracas. On peut s'attendre à une nouvelle grande mobilisation. Celle de mercredi dernier a été gigantesque par son ampleur. Elle a dépassé toutes les manifestations de 2017 qui avaient déjà mobilisé beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce que, pour une fois, l'opposition a réussi à mobiliser les quartiers populaires, ce qui relève de l'exploit. Elle n'avait jamais réussi à faire descendre les personnes des quartiers populaires des barrios, comme on dit ici. À quoi s'attendre ? Eh bien, écoutez, à part à une montée de la pression du côté de l'opposition, on ne voit pas vraiment qu'est-ce qui pourrait changer cette semaine. Selon plusieurs spécialistes des questions de défense au Venezuela, il va falloir attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de voir les choses bouger au sein de l'armée. En tout cas, il faudra regarder de près la répression de ces manifestations, car selon Juan Guaido, plus la répression sera faible, plus ce sera la preuve que les militaires veulent le rejoindre.
Dans un contexte aussi tendu, à la fois politiquement et économiquement, comment l'information circule-t-elle, notamment dans un pays où les médias sont assez largement censurés ?
Eh bien, écoutez, elle circule en particulier sur les réseaux sociaux, car la censure telle qu'elle est dénoncée par l'opposition des médias est effectivement présente. La plupart des médias qui sont encore diffusés à la télé, à la radio, ont été obligés d'adopter une ligne officielle. Sinon, ceux qui ont refusé ont vu leur canal être fermé. Même chose pour la presse écrite. Le gouvernement pèse sur les journaux en coupant la distribution de papier. C'était le cas notamment du journal El Nacional, un journal avec une très forte audience dans toute l'Amérique latine. Son site internet est visité par plus de 2 millions de personnes chaque jour. Eh bien, il a été obligé d'arrêter sa diffusion papier en décembre, car il n'avait plus les moyens de s'approvisionner, étant donné que la principale entreprise qui s'occupe de cet approvisionnement a été rachetée par l'État en 2013. Donc, pour les opposants, le seul moyen de s'informer, c'est d'utiliser les réseaux sociaux et aussi d'utiliser les assemblées populaires. C'est ce qu'a créé Juan Guaido. D'abord, des cabildos abiertos, des réunions publiques. Les citoyens vénézuéliens, depuis 2 semaines, se réunissent sur des places, dans des rues, pour discuter de la feuille de route de l'opposition. Et c'est ainsi que les messages passent, par le bouche à oreille, et surtout, comme je l'ai dit avant, par les réseaux sociaux, en particulier Twitter, qui a valu d'ailleurs à Juan Guaido une moquerie de la part de Nicolas Maduro, qui l'accusait de n'être le président que d'une seule chose, c'est des réseaux sociaux.
Réseaux sociaux qui sont cependant parfois difficiles à consulter, vu que l'accès à Internet reste extrêmement complexe, et notamment faute de réseau 3G, ce qui fait d'ailleurs que la ligne téléphonique n'est pas très bonne avec vous, puisque nous n'avons pas de moyens normaux pour vous parler.
Oui, effectivement, c'est particulièrement le cas lors des manifestations ou lorsque des émeutes ont lieu dans des quartiers. Le principal fournisseur du réseau téléphonique et du réseau d'Internet, contrôlé par l'État, a tendance à couper le réseau pour éviter que des informations fuitent, pour éviter que des images sortent. Et c'est effectivement très problématique car ça alimente énormément de rumeurs d'un côté comme de l'autre. On ne sait jamais exactement ce qui se passe dans les quartiers, on ne sait jamais exactement ce qui se passe dans les manifestations. C'est aussi très difficile pour avoir des bilans chiffrés sur les arrestations, sur le nombre de morts, sur le nombre de blessés pendant ces événements-là. Et c'est surtout difficile pour avoir une information juste, une information correcte de ce qui se passe au Venezuela. Ça complique énormément l'analyse de la situation et selon l'opposition, c'est exactement ce que veut le gouvernement. Mais il y a un paradoxe, c'est que l'opposition s'en sert aussi pour gonfler un peu ses chiffres, les chiffres de la répression, pour gonfler tout ce que le gouvernement passe, peut opérer comme répression.
Un mot pour terminer, Benjamin Delisle. Je rappelle que vous êtes en direct de Caracas et correspondant de Libération, de Radio France sur place au Venezuela. Un mot sur l'état général du pays, l'état général de l'économie, la violence, l'exil aussi déjà de plus de 2 millions, je crois, d'habitants selon l'ONU, et plus largement les difficultés quotidiennes que rencontrent les Vénézuéliens.
Je vais commencer avec un chiffre qui est stratosphérique, celui de l'inflation. Elle est estimée à 10 millions de pourcents pour toute l'année, sur l'année 2019.
Ça ne veut plus rien dire presque, ouais. À la fin. Ouais.
Ça ne veut plus rien dire, mais par contre, ça se sent très concrètement au quotidien au Venezuela. C'est-à-dire que les prix explosent chaque jour. D'un jour à l'autre, les prix peuvent augmenter de 30 à 40%. C'est extrêmement impressionnant. Et pour les Vénézuéliens, c'est très dur car la plupart, 8 Vénézuéliens sur 10, touchent le salaire minimum qui vaut 18 000 bolivars. En ce moment, ça fait moins de 10 euros. Et ce salaire minimum n'augmente que les 2, 3 ou 4 mois. Donc pour eux, ils voient leur pouvoir d'achat chuter tous les jours, l'alimentation augmenter tout le temps. Et le manque de devises qui est lié à cette hausse constante de la monnaie fait que le pays n'arrive plus à acheter d'aliments, n'arrive plus à importer de médicaments. Donc en plus du fait que les Vénézuéliens ne peuvent rien acheter, ne peuvent rien acheter à cause de leur pouvoir d'achat, il y a souvent très peu de choses disponibles. Donc ça pose, comme vous pouvez vous en douter, énormément de problèmes de famine, énormément de problèmes de santé pour les Vénézuéliens qui n'en peuvent plus. Donc jusqu'ici, ça s'exprimait par une fuite, vous l'avez dit, avec une émigration très forte. Elle devrait être de 5 millions de personnes en 2019, la diaspora devrait monter à 5 millions de personnes en 2019 selon l'ONU. Et l'autre expression, c'est celle qu'on a vue ces deux dernières semaines, c'est la manifestation populaire qui prend de l'ampleur ici au Venezuela face à ce quotidien particulièrement difficile.
Merci infiniment et bon courage à vous, Benjamin Delisle. Je crois qu'il y a quelques mois déjà que vous vivez à Caracas. Vous étiez, je le rappelle, en direct par téléphone depuis le Venezuela.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture, 19h33, mon invité ce soir, Hervé Lemoine, directeur des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais, de la Savonnerie et des ateliers nationaux de dentelle. Rebonsoir,
Hervé Bonsoir. Lemoine.
Alors tout ça paraît un peu d'abord différent des sujets dont on parlait auparavant, et puis ça a l'air un peu comme ça anecdotique, on parle de savonnerie même si ça n'a aucun rapport avec le savon, de dentelle, de tapis. Alors avant d'en arriver aux raisons qui nous ont amenés à vous inviter ce soir, tout cet ensemble c'est le patrimoine de la France et c'est très ancien, c'est une histoire très longue.
C'est une histoire très longue effectivement, elle n'est pas totalement sans relation avec Michel Legrand et l'univers onirique créé dans les films de Jacques Demy. Parce qu'il y a la beauté et il y a le décor, en fait. On voit bien qu'ils ont créé dans leur film un univers très, très particulier, très singulier à tout point de vue. Et le décor, il joue un rôle important. Or, toutes les manufactures dont vous avez parlé, et que j'ai l'honneur aujourd'hui de diriger, avec le Mobilier National, elles concourent justement à une réflexion et à une création d'un décor français depuis la fin du XIVe siècle. C'est ça qui est évidemment assez étonnant. Parce qu'en réalité, la cour de France étant itinérante, elle avait besoin d'avoir une administration qui la suive avec...
Donc ça veut dire que les meubles se déplaçaient avec la cour.
Et avec la cour, il y avait les tapisseries, l'argenterie, le mobilier, les coffres, les archives, tout suivait la cour. Et donc c'était une importante mission.
On pavoisait même les rues, c'est ça, avec des tapisseries.
Absolument, on a complètement oublié cela parce qu'aujourd'hui on conserve nos tapisseries.
Quand le président Macron sort, on ne tapisse plus.
Non. Absolument. Cela étant, la dernière fois que nous avons pavoisé à l'extérieur en mettant des tapisseries, c'était dans l'enclos des Gobelins, je vous rassure. Mais c'était quand même à l'extérieur, c'était pour la visite de la reine d'Angleterre. Donc, vous voyez, on a pavoisé une dernière fois pour la reine d'Angleterre.
On pourrait donner un nom, sans doute, il y en a-t-il beaucoup d'autres. On peut parler de Colbert, par exemple. C'est au fond un peu cet élément-là.
Comme je vous le disais,
la Grande France.
Cette administration du garde-meuble royal qui va donner le Mobilier National, elle va se nourrir, si j'ose dire, ou s'enrichir. Ces collections vont s'enrichir de toutes les créations des manufactures qui vont être organisées vraiment par Colbert, effectivement. Même si, en réalité, Henri IV, avant, lui, s'y était déjà bien intéressé. Mais c'est quand même Colbert et Louis XIV qui vont créer ce système à la fois d'un certain nombre de privilèges pour des manufactures royales et également créer des manufactures de la couronne. Nous sommes aujourd'hui les héritiers des manufactures de la couronne. C'est-à-dire que ces manufactures ne travaillaient vraiment que pour le roi, que pour la cour, mais ce qui voulait dire aussi d'ailleurs pour les cadeaux diplomatiques, fort nombreux, et ce qui explique que nous trouvions dans les grandes collections internationales, dans les musées ou dans des grandes collections privées encore, parfois des tapisseries, des gobelins ou du mobilier issu de la manufacture de meubles qui était aux Gobelins, parce qu'on a oublié cela, mais il y avait à l'époque une manufacture de meubles aussi aux Gobelins.
Alors, au-delà de Colbert et au-delà de cette histoire, c'est aussi un savoir-faire, c'est aussi des techniques, on pourrait dire, d'artisanat, un peu comme ça, en employant un mot un peu, entre guillemets, vulgaire, non pas forcément royal, mais ces savoirs, il faut aussi les préserver, c'est aussi ça votre métier.
Absolument. Avec ces manufactures et cette mission du garde-meuble royal, aujourd'hui Mobilier National, s'est développé et a perduré au cours des siècles des métiers d'art très très rares, très exceptionnels. Trois d'entre eux d'ailleurs sont inscrits actuellement déjà au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est la basse-lisse, ce que l'on fait à Beauvais, à Aubusson aussi, c'est la menuiserie en siège et c'est la dentelle à l'aiguille que nous faisons à Alençon. Donc vous voyez, il y a même trois de ces arts, de ces métiers d'art qui ont été inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et sinon, évidemment, la technique de la création ou de la restauration de la tapisserie ou du tapis de la savonnerie, c'est-à-dire du point noué, qui est le tapis occidental, si l'on peut dire, créé par Lebrun. Là, quand même, Colbert a fait beaucoup de choses, mais il faut reconnaître quand même que c'est Lebrun qui crée le tapis occidental en adoptant une technique de tapis turc en point noué, qui est aujourd'hui encore considérée comme la technique la plus, je dirais, sophistiquée, la plus luxueuse en termes de réalisation pour des tapis.
Petite question d'histoire, vous êtes Mobilier National depuis quand? Depuis la Troisième République? Parce que j'ai l'impression que, à quel moment est-ce qu'on arrêtait d'avoir cette confusion mobilier des princes, mobilier de la République, de la chose publique? J'ai souvenir, il y a eu évidemment l'incendie des Tuileries, mais que, par exemple, quand l'impératrice Eugénie a été déchue et que la Troisième République s'est mise en place, elle a failli partir avec tout. Parce qu'il y avait une confusion totale entre ce qui était à elle, ce qu'on lui avait offert en tant qu'impératrice, et ce qui appartenait à la nation.
Absolument. Du coup, il a fallu faire un petit inventaire.
Voilà, c'est le premier inventaire.
Absolument. Et comme on dit dans notre jargon, décroiser les inventaires de façon à ce que l'impératrice parte avec des biens meubles qui lui étaient propres et sans contestation aucune, mais qu'elle laisse effectivement ce qui appartenait à la nation. Et là, vous abordez d'ailleurs un point très important.
Politique.
Le mobilier national, c'est avant tout le mobilier de la nation. C'est-à-dire que nous en sommes tous propriétaires à hauteur de 1,67 millionième. Et ça, c'est très important. Alors, ça, de casser cette
ça,
idée.
Ça, c'est une super nouvelle. Est-ce qu'on peut
on a tous un petit bout de mobilier national. Alors, ce mobilier national, il est d'abord et avant tout dans le bureau du président de la République, et l'Élysée, le Premier ministre, l'ensemble des ministres, je crois les directeurs de cabinet, certains conseillers de cabinet, nos ambassadeurs à travers le monde. C'est ça, en gros, le mobilier national.
Absolument. La loi a déterminé, vous savez que les lois, on écrit tout dans nos lois en France, heureusement. Donc, la loi a déterminé les 600 affectataires de droit, c'est le terme précis, qui peuvent bénéficier, je dis bien bénéficier, des dépôts du mobilier national. Et donc, effectivement, nous avons près de 200 ambassades de France à l'étranger qui sont meublées grâce au mobilier national. Puisque, et je le dis ici à dessein, puisque c'est une forme du soft power français.
C'est évidemment notre influence aussi. Et alors, oui. Si on prend, on connaît tous, enfin en tout cas, on connaît parfois le bureau célèbre de François Mitterrand, signé Pierre Paulin, on connaît les bureaux de Jack Lang qui ont été très célèbres. Mais comment ça se passe concrètement? Un nouveau ministre, Franck Riester, arrive, il ou quelqu'un de son cabinet vous passe un coup de fil, et alors qu'est-ce qui peut se passer? Il a des choix, il vous demande de créer des objets, il est pénible, il vient voir, non, vous lui montrez.
Ils sont toujours très agréables, bien entendu. ce qui se passe généralement, c'est que c'est vrai que toute personne qui va incarner d'une façon publique une forme d'exercice du pouvoir va vouloir, être dans des meubles ou dans un univers qui va être, en cohérence avec l'image qu'il veut donner de lui-même. Bon, ça, c'est maintenant, c'est ainsi.
Ils sont pas capricieux.
Non, généralement non, parce que d'abord, les possibles sont limités. Et ce que l'on fait, c'est qu'on fait nous une proposition en réalité. C'est-à-dire que c'est pas du tout un ministre ne va pas dans dans les greniers de la République, si j'ose dire.
Où il y a combien d'ailleurs de pièces conservées
Plus de 100 000 quand même.
130 000, on dit.
Oui, plus de 130 000.
Donc, ça leur faut un petit moment pour choisir.
Ouais. Alors voilà. Donc comme ça serait impossible, c'est nous qui faisons en fait une présélection en quelque sorte. En fonction de leur desiderata, de leur goût, de ce qu'ils expriment vouloir montrer en termes d'art décoratif et de style. Et puis, en fonction aussi de l'endroit où ils sont, parce que c'est évident que selon qu'on est dans un ministère qui est un hôtel particulier du 18e ou un ministère qui est dans un immeuble extrêmement moderne, à Bercy par exemple, ou même d'ailleurs une partie du mobilier avait été créée en même temps en relation avec l'architecture, c'est évident que nous-mêmes, nous allons faire des propositions un peu différentes.
Le Canard enchaîné tout récemment a annoncé que le ministre du numérique, secrétaire d'État au numérique, n'avait pas tellement apprécié ni la moquette ni les bureaux qu'on lui avait fournis justement, et donc il a demandé à ce qu'on les renvoie pratiquement, je dirais presque comme des vieilleries, ce à quoi l'architecte de Bercy, à savoir Paul Chemetov, a réagi, a dit que c'était une commande importante qu'il voulait renvoyer dans les entrepôts, et il s'est étranglé, je le cite, ils ont été dessinés ces meubles par Isabelle Herbébé et André Putman, c'est ce qui se faisait de mieux au monde à l'époque.
Oui, en même temps, dans la phrase de Chemetov, il dit tout. C'est ce qu'il se faisait le mieux au monde à l'époque. On peut comprendre aussi que un homme politique, une personnalité qui a une image aujourd'hui, va s'inscrire dans l'époque,
chose.
Dans le moment.
Il voilà. Préfère du Ikea ou du Habitat.
Alors, fort heureusement, non. Et je dis, c'est pour cela que nous avons le mobilier national, parce que la France n'est pas comme certains pays nordiques. Je n'ai rien contre certains pays nordiques, mais le soft power français, justement.
C'est à cause d'Ikea que vous dites.
Ce sont les arts décoratifs, ce sont les savoir-faire, ce sont les métiers d'art, et ce qui explique d'ailleurs, parce qu'il y a une relation directe entre cela, que les plus grandes industries du luxe en France sont nées de ces métiers d'art, et que les plus grands groupes du luxe au monde sont français, et pas forcément nordiques, ont d'autres qualités, de la même façon que les grands architectes, les grands décorateurs actuellement sont français. Et je dirais que tout ça c'est un continuum. Il y a un lien très direct entre un terreau très riche de savoir-faire, de culture attachée à ces métiers et à ce patrimoine, et le fait qu'aujourd'hui, des architectes, des décorateurs, des designers et des industries du luxe portent ce pouvoir, ce véritable pouvoir d'influence de la France à l'étranger.
Alors pour résumer quand même, on peut dire que c'est des endroits qu'on peut visiter en plus, l'immobilier national, que vous faites tout le travail que vous venez de faire. Il y a eu une sortie de la ministre, de notre ancienne ministre de la Culture en juin dernier, qui vous a je crois convoqué à un moment donné et qui a posé cette question rapportée dans la presse. Et si tout simplement l'État fermait les manufactures des Gobelins? Alors évidemment, on est à un moment politique en plus particulier en ce moment, mais de manière générale dans ce qu'on appelle un contexte contraint budgétairement. Comment est-ce que vous comprenez vous lisez, votre mission et aussi peut-être les doutes qu'elle puisse susciter, c'est-à-dire tant de savoir-faire, mais qui ne sert que aujourd'hui, certes la nation, mais en l'occurrence son élite.
Alors, en réalité, la phrase que vous citez, c'est pas tout à fait ça. C'est Françoise Nyssen avait réuni autour d'elle, au contraire, avait organisé un déjeuner avec des designers, des architectes, des créateurs, des designers, autour, je dirais, ou pour se pencher sur la question du mobilier national. Et la question était en fait une sorte de provocation en disant on ne va pas au contraire fermer ses manufactures et on ne va pas perdre ses savoir-faire. Mais comment faire? Et là, c'est une vraie question.
Pour
c'est
ne pas
ce
les
que
faire.
Vous posez. Pour ne pas les perdre et pour leur donner une utilité sociale.
Ça veut dire qu'il faut trouver un nouveau modèle économique?
Alors, un modèle économique, il n'y en a pas aujourd'hui, en réalité.
Donc, il faut en avoir un.
Je pense que vous avez absolument raison. Aujourd'hui, on ne peut pas être totalement hors sol. Il faut trouver un modèle économique, ça c'est certain. Et surtout, je pense qu'il faut peut-être refonder et élargir notre utilité sociale, qui ne peut pas, aujourd'hui, et ça je l'entends parfaitement bien, uniquement, comment dirais-je, on ne peut pas se contenter de dire, nous meublons les lieux publics, les lieux de pouvoir, même nos ambassades. On voit bien l'influence que ça bien peut sûr. Avoir et l'importance que ça a.
Alors, la solution, voilà. C'est quoi? C'est à la fois peut-être continuer sur les prototypes, mais par contre, faire de l'édition commerciale à partir de ces prototypes?
Mais je crois qu'il faut suivre le chemin, d'ailleurs, qu'on a déjà emprunté avec Sèvres, hein, qui, maintenant,
la
depuis longtemps,
de
la manufacture de Sèvres, à la fois a une partie de sa production pour, justement, les fameux lieux dits de pouvoir ou les lieux publics et à une partie de sa collection et de ses productions qui sont évidemment accessibles à la vente, hein, tout un chacun, et bien de la même façon, je pense qu'il faut que nous, au niveau du mobilier national et des manufactures qui relèvent de notre périmètre, nous réfléchissions à faire en sorte qu'effectivement nous puissions peut-être innerver aussi une nouvelle édition en termes de mobilier, peut-être avoir des collections de tapis qui seraient pas forcément savonnerie, mais qui seraient dans une technique un peu plus simple et moins onéreuse. Pour l'ouvrir, évidemment, à la commercialisation. Bref.
Et là, on parle en plus de ce qu'on pourrait vendre en France, mais il y a quand même une fascination, vous l'avez dit, c'est un grand outil de soft power, notamment la fabrication. La France aurait inventé le luxe, c'est une vraie question.
Bien sûr.
J'imagine qu'il doit y avoir, il pourrait y avoir des demandes, ne serait-ce que d'autres gouvernements. On sait que l'Asie est très friande,
mais
par exemple, de ça.
Il y en a en permanence. Nous avons meublé les salons d'honneur, maintenant, de réception de Roissy et d'Orly, ce que je trouve une bonne façon. Tout de suite pour nos hôtes étrangers, de le mettre dans le bain pour montrer la création en France. Ben, c'est évident qu'on a des demandes, mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité de les honorer, entre guillemets. Donc, c'est ce qu'il faut faire.
Ça ne relève pas de votre mission, c'est pas votre cahier des charges.
C'est ce qu'il faut faire maintenant.
Alors, en plus, c'est très long, c'est très cher. Combien vous avez de salariés à peu près?
Actuellement, il y a à peu près 350 personnes qui travaillent dans l'ensemble des manufactures et pour le mobilier national, donc alors, tout confondu. Hein.
Alors vous évoquiez tout à l'heure les tapis, par exemple. Prenons cet exemple. Nous sommes allés dans les manufactures nationales et nous avons interviewé un certain nombre de on pourrait presque dire d'artistes, tellement le travail est complexe. En l'occurrence, il s'agit d'une dame spécialiste de cet artisanat d'excellence qui est la tapisserie, on peut dire art, qui nous explique le travail qu'elle est en train de faire.
C'est le tableau, c'est l'œuvre de l'artiste qui a été achetée par notre ministère et qui nous est confiée pour le traduire en tissage.
Et c'est ce que vous êtes en train de faire?
Voilà. On transcrit en laine une œuvre peinte.
Combien de temps il va falloir?
Tout dépend de la dimension.
Et là, sur celle-ci?
Et celle-ci, il faut compter environ 5 ans à 2 personnes. Elle fait 4 mètres par 3.
Et là, vous êtes à peu près quelle...
À peu près la moitié. Voilà, ça fait 2 ans et demi, ce qui fait que c'est pour ça que nous avons calculé environ 5 ans à 2 personnes.
Il y a cette couleur un peu or?
Oui.
C'est du vrai or en principe?
Normalement, oui, du temps de Louis XIV, ça aurait été de l'or, mais là, le peintre a mis de l'or aussi. Il nous a demandé si on pouvait toujours mettre des fils d'or, mais non, nos moyens ne sont plus assez importants pour ça. Alors, on a trouvé un genre or. Et qui, j'espère, fera son effet aussi. C'est métallisé, mais ça n'est pas de l'or.
Voilà, à l'instant, cette personne qui travaille dans les ateliers de tapisserie de la Manufacture Nationale des Gobelins, au fond, c'est un peu les ors de la République, on pourrait dire, d'une certaine manière.
Justement, il faut sortir de cette idée-là. Je pense qu'il faut, une nouvelle fois, complètement repensé d'ailleurs le projet qui était celui de Colbert hein, initialement, qui était de faire de ces manufactures le fer de lance d'un certain nombre de d'industries, certes du luxe, mais d'industries en France. Et je pense qu'il faut que nous réassumions complètement ou que nous assumions beaucoup mieux ce rôle de fer de lance justement d'un certain nombre de métiers, d'une excellence à la française dans le domaine du décor, de la création de mobilier, de textile et aussi donc s'insérer dans une logique économique sans se réduire à cela forcément, mais en tout cas sortir de la seule idée que nous ne serions que une nouvelle fois une sorte de caverne d'Ali Baba destinée à meubler nos lieux de pouvoir. Ça c'est très, je pense, réducteur. Il faut sortir en tout cas de cette idée-là.
Au moment où les gilets jaunes ont commencé à manifester en novembre, vous avez commencé la restauration de la salle des fêtes de l'Élysée et ça vient de se terminer, je crois, deuxième semaine de janvier. Alors d'abord, de quoi s'agit-il? Pourquoi il fallait le faire? Et quel a été, au fond, évidemment, c'est mal tombé, mais on peut dire que c'est aussi, vous l'avez dit en début d'émission, c'est un concours de circonstances. Hein. C'était pas prévu de restaurer cette salle. C'est aussi nécessaire de faire ça?
Oui, alors d'abord, la Cour des comptes, ça fait des années que la Cour des comptes, dans ses rapports, et la Cour des comptes, généralement, n'encourage pas l'État à dépenser ses deniers. La Cour des comptes soulève le problème que l'Élysée n'a pas été restaurée suffisamment depuis des années et des années et des années, parce que personne n'a voulu, je dirais, ni politiquement, j'imagine, ni même en termes fonctionnels, se priver, si vous voulez, de l'usage de certaines parties de l'Élysée pour y autoriser des travaux de restauration. Donc il y a certaines parties de l'Élysée qui maintenant souffrent d'un état de vieillissement important, et la salle des fêtes de l'Élysée, qui reçoit à peu près 250 manifestations publiques chaque année, donc elle est extrêmement fréquentée, souffrait beaucoup de cela. Et pour ce qui est du mobilier national, nous, ça fait des années que nous demandions à ce que les tapisseries historiques qui ornaient cette salle soient enfin déposées, puisque ça fait presque 100 ans qu'elles y étaient. Or, normalement, au bout de 5 ans, on doit assurer, vous voyez, le changement des œuvres exposées. Donc il fallait enlever les tapisseries, il fallait changer la moquette qui avait été abîmée parce que foulée par des centaines, pour ne pas dire des milliers d'invités depuis des années. Il fallait changer les pare-closes, donc les tissus au mur, parce qu'il y avait des infiltrations d'eau. Donc c'était vraiment un chantier patrimonial et de conservation, si vous voulez. Alors à partir de ce moment-là, il y avait deux solutions. Soit on refaisait un pastiche Napoléon III, ce qui était le cas de cette salle jusqu'à présent, soit on refaisait, ou on faisait plutôt, une proposition contemporaine, d'ailleurs à la fois sobre, moderne et traduisant le goût d'aujourd'hui. Et c'est l'option que nous avons prise.
Donc avec Isabelle Stanislas.
Absolument. On a organisé un concours avec l'architecte en chef des monuments historiques, l'architecte des bâtiments de France.
C'est toujours comme ça que ça se passe? C'est un appel d'offres que vous lancez?
Pas forcément, mais là, moi, j'ai choisi délibérément de faire un appel d'offres en appelant autour de nous, si j'ose dire, un certain nombre de personnalités qui, d'un point de vue fonctionnel ou par leur capacité, leur goût, pouvaient nous aider à avoir une proposition intéressante et de qualité. C'est ce qui s'est passé. Donc nous avons lancé...
Donc Isabelle Stanislas, l'occurrence.
Voilà, Isabelle Stanislas a remporté donc cette consultation et elle a fait cette proposition très moderne, très contemporaine, pour une salle des fêtes de 2019 et pas un remake, si j'ose dire, du 19e siècle.
Alors parmi les 350 salariés des manufactures, nous sommes allés à la rencontre d'ébénistes, menuisiers. Et là, on est dans la salle où ils travaillent. Ça s'appelle l'atelier de recherche et de création des manufactures de Gobelins. Les ébénistes sont en train de préparer un bureau. On les écoute.
Vous êtes à l'atelier de recherche et de création dans la partie bois, où il y a 4 à 5 ébénistes qui travaillent sur différents projets.
En musique en plus.
Tout à fait, musique très relaxante et très propice à la création.
On ne sait pas exactement ce que c'est, c'est pas vraiment un meuble, c'est quoi?
C'est une maquette, c'est les prémices d'un projet de Benjamin Gradorge et de Imer et Malta, qui est un studio de création, une galerie. Donc là on a fait un premier jet vraiment pour valider les proportions de l'objet, du bureau. Donc on peut voir, il y a une zone claire, une zone sombre, on a déjà raccourci l'objet, parce qu'en le faisant physiquement, réellement, on s'est rendu compte qu'il était un peu trop imposant, on a affiné certaines sections, agrandi quelques parties, rajouté des renforts pour que l'objet soit absolument stable. Donc il y a, la maquette sert aussi à valider un volume, mais aussi sa faisabilité technique.
Là, c'est quel matériel ?
Là, c'est fait avec des matériaux pauvres. Hein. C'est juste pour avoir un objet physique dans un.
Pour voir ce que ça va devenir.
Voilà.
C'est quoi ? C'est du.
Au final, on aura toutes les parties planes seront gainées de cuir, et toute la partie un peu tubulure sera en noyer massif.
Et à terme, ça va être quoi ?
Bah, ce sera un bureau de direction de ministre. Il est quand même assez grand. Il fait à peu près 3 mètres de long. On a une belle surface de travail. Il y aura des lampes pour éclairer avec de la céramique de Sèvres. Donc c'est vraiment un très beau projet.
Alors là, on était avec cet artisan, Hervé Lemoine. Je rappelle que vous êtes directeur des Manufactures Nationales des Gobelins de Beauvais, de la Savonnerie et des Ateliers Nationaux de Dentelle et du Mobilier National. En l'occurrence, on fait des prototypes. Il y en a un autre que j'ai vu lorsque j'ai visité vos locaux, un prototype de lustre avec 108 ampoules extrêmement sophistiquées qui est une sorte de copie de ce que pouvait être un éclairage à la bougie à l'époque. Et là, ça va partir pour le Louvre à Abu Dhabi, je crois.
Absolument. Alors ça, c'est un bon exemple de ce que nous voulons faire maintenant. C'est-à-dire que nous avons créé pour Jean Nouvel ce lustre. En réalité, il y en a même 7. Et ils ont été vendus au Louvre à Abu Dhabi pour le restaurant du Louvre à Abu Dhabi. Donc nous avons créé, réalisé et même installé. Et le prototype dont vous parlez, Jérôme Bescon, qui est le responsable de l'atelier de recherche et de création, en vous disant c'est un modèle type bureau de ministre, c'est vrai, mais je pense que c'est là où il faut que nous allions maintenant un peu plus loin, c'est-à-dire de dire quand on crée ce genre d'œuvre, quand on fait ce type de prototype, ce qu'il faut maintenant systématiquement, c'est trouver aussi un éditeur et en faire une série limitée, parce que ce sont des meubles de très très grande qualité, bien sûr, mais il y aura sûrement une clientèle internationale et française pour ce type de mobilier. Il n'y a pas de raison de ne faire qu'un prototype ou qu'un exemplaire qui serait réservé.
C'est aussi un moyen
un ministre,
d'aider voilà. De nourrir un terreau de designers et donc d'artistes que vous allez, auxquels vous ferez des commandes, vous le faites déjà régulièrement.
Tout à fait. Et ça, on veut absolument renforcer ça. Je dois dire qu'on va bénéficier d'un certain nombre de mécénats aussi pour nous aider, et ça fait partie du nouveau modèle économique que moi je voudrais que nous adoptions. On va avoir des mécènes, mais qui vont nous aider à investir pour justement soutenir beaucoup mieux la création française et de jeunes designers français très talentueux qui sortent de nos écoles et qui n'ont pas généralement la possibilité de prototyper, ce qui coûte très cher, donc de faire réaliser une première maquette de leurs œuvres. Et ça, il me semble que là, nous, Mobilier National, nous serions dans notre rôle à aider ces jeunes créateurs à prototyper leurs œuvres et après à les aider aussi, à aller voir des éditeurs de mobilier pour fabriquer ces meubles et les diffuser, donc les vendre, et ça va contribuer évidemment au rayonnement de la France.
Une dernière question, Hervé Lemoine. Qu'est-ce qui se passe si un conseiller, un ministre, un préfet, un ambassadeur, je ne sais pas, qui est un peu capricieux, ça arrive. D'abord, vous renvoie les meubles, certains les cassent, parfois même partent avec.
Ah, s'ils partent avec, ça je le déconseille formellement, c'est arrivé il y a quelques temps de ça, la presse d'ailleurs l'a relaté, ben, nous avons porté plainte au pénal et c'était un préfet qui est
une préfète, je crois. Même.
Oui, absolument, qui de façon un peu délicate avait confondu, n'est-ce pas,
elle avait même
personnel.
Revendu le mobilier national.
Absolument, ben, écoutez, maintenant elle est...
Alors la Cour des comptes dit que tout dans... Je crois que
elle
la Cour des comptes évalue tous les 10 ans, c'est ça, tous les 10 ans, la Cour des comptes vérifie qu'est-ce qui revient dans ce que vous prêtez, dans ce que présente.
Alors
que
même nous, maintenant, c'est tous les 5 ans. On fait un récollement tous les 5 ans. Et pour ce qui est l'Élysée, où il y a beaucoup de mouvements, comme vous le savez, c'est tous les ans que nous faisons ça. Comme
et
ça,
puis, il y a un 84%. Et vous récupérez 84% selon le dernier rapport de la Cour des comptes, ce qui semble un peu pas beaucoup quand même.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a 16% qui sont
réalité,
un peu dans la nature.
Beaucoup plus, parce que la Cour des comptes, qui est une maison avec une très très longue mémoire, parle encore des pertes, si vous voulez, de la Révolution de 1870. Et donc, voilà. Ça, je dois reconnaître que oui, c'est vrai, il y a probablement des meubles qu'on a perdus depuis 130 ans, qu'on ne retrouvera pas. Mais pour ce qui est des meubles assez récents mis dans les ministères, je peux vous dire qu'aujourd'hui, non, ça, on ne plaisante plus avec ça et qu'on les suit à la trace.
Vous avez dit, la préfète est en prison. Donc
oui.
Voilà. Mais alors, un truc très connu aussi dans les administrations, c'est le jour où un ministre change, le cabinet ministériel est dissous automatiquement, c'est normal. Et là, vous arrivez le jour même pour voir ce qui est au bureau, les tableaux pour ce qui concerne les musées, etc., qui les ont prêtés. Et vous-même, vous radez les meubles.
Absolument. Bah, vous savez, ça doit tenir peut-être à ma personne, parce qu'avant, j'étais directeur des archives de France. Donc, dès qu'un ministère tombait, je je venais tout de suite pour récupérer les archives, mais maintenant, quand un ministre change, je viens tout de suite pour vérifier que le mobilier est toujours là.
Très bien, merci infiniment. Il y a un an, Hervé Lemoine, je crois à peu près, que vous êtes directeur des manufactures nationales des Gobelins de Beauvais, de la Savonnerie et des ateliers nationaux de dentelle, et directeur du mobilier national. Merci infiniment d'avoir été notre invité.
Merci
ce soir.
Beaucoup de m'avoir invité.
Soft Power, dans un instant, seconde partie de cette émission, 20h10, le club de la presse numérique. Nous nous demanderons s'il faut lever l'anonymat en ligne ou sur les réseaux sociaux et nous serons pour en parler avec Amel Guiton de Libération et Romain Pigenel, cofondateur de Futur.io. Et dans un instant, à 20h, Zoé Sfez, votre invité innovation, s'intéresse au cinéma et aux vidéos en ligne en Afrique.
Notamment, il s'appelle Tondje Bakang, c'est lui qui a fondé Afrostream qui a vécu trop peu, mais qui est une belle expérience, qui nous enseigne beaucoup de choses justement sur ce fameux marché africain qui excite tous les appétits.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça à suivre après un extrait de la bande originale du film Une femme est une femme, extrait de la bande originale donc de Jean-Luc Godard, interprété par Anna Karina, musique Michel Legrand, en hommage ce soir sur France Culture.
Se demande pourquoi tout le monde est fou de moi. Ce n'est pas compliqué, voilà la vérité. J'ai des très jolis seins, des yeux d'améthyste, un tout petit col marin et un slip de Baptiste.
France Culture, il est 20h passé de 1 minute.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfez.
Bonsoir Tondje Bakang.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Nous allons parler cinéma, vidéo en Afrique, mais pas que. Et on va parler aussi, et c'est ça qui est précieux, je vous remercie d'être là, d'une forme d'échec, parce que vous êtes lancé dans une entreprise entrepreneuriale qui n'a pas fonctionné, mais qui est riche en enseignements. Et ça, c'est chouette, parce qu'on le sait, le monde de l'entreprise est très dur. Dans les startups et dans les projets qui sont plus gros que les startups, il y a un taux d'échec. Et souvent, on apprend de nos erreurs. On dit souvent que la France a du mal à accepter ça, mais je pense qu'en effet, c'est bien de pouvoir en parler. Vous êtes donc entrepreneur. Vous avez été à l'origine, vous travaillez essentiellement dans l'entreprise, dans l'industrie du divertissement depuis vos débuts. Je crois que vous êtes à l'origine de ce qui est devenu ensuite le Jamel Comedy Club.
Tout à fait.
Dans un premier temps. Et vous avez lancé ce projet Afrostream qui a commencé, je crois, en 2016 officiellement et qui s'est terminé l'année dernière en 2017. C'était quoi Afrostream? C'était quoi votre envie? C'était quoi le pari à la base?
Alors Afrostream était un projet qui avait l'ambition de diffuser du contenu africain et afro-américain auprès de la diaspora et du public africain. J'ai commencé cette aventure en 2013 pour qu'elle se concrétise finalement en septembre 2015. Alors, tous les projets semblent très simples une fois qu'ils sont lancés, mais ça a demandé beaucoup de ressources et beaucoup de recherches parce que il y a une forte production de contenu audiovisuel africain dans des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire,
Nollywood, vous tout à fait, Nollywood, à Lagos,
mais aucun moyen de diffusion et de monétisation pour ce contenu. Donc l'ambition était à la fois purement business, de divertir un public en demande de ce contenu. Un public large, parce qu'il faut savoir que comme le cinéma asiatique ou indien est vu un peu partout dans le monde, pour moi il me semblait nécessaire d'avoir une plateforme comme ça qui allait accompagner l'essor du cinéma africain. Effectivement, cette aventure s'est arrêtée de façon prématurée. Nous avons dû fermer le service en décembre 2017, il y a un peu plus d'un an, parce que quand vous lancez un média avec une ambition internationale,
il faut des dizaines de millions d'euros. Et malgré des levées de fonds à succès avec mon équipe, on n'a pas pu avoir les capacités financières nécessaires.
Alors justement, parce que ça vous l'avez dit, vous avez publié une lettre ouverte d'ailleurs au moment où vous avez finalement décidé de fermer ce service.
Très important de partager les succès, mais aussi de tirer les leçons de ces enseignements et les partager avec d'autres aspirants entrepreneurs.
Et justement, c'était quoi cet abonnement? C'était quoi le pari? Vous vous êtes dit, on est sur du streaming, les contenus que vous proposiez c'était quoi? Je crois que l'abonnement c'était 6,99€, c'est
voilà.
Ça?
Voilà, l'idée c'était d'être dans les prix du marché, un abonnement mensuel à moins de 10€, qui donnait un accès illimité à des films, des séries, des documentaires, et même, on s'est tenté au podcast. L'important, c'est d'être la porte d'entrée sur une culture très riche africaine.
Donc, vous l'avez dit, il y a effectivement vous avez eu ces problèmes budgétaires, c'est-à-dire qu'en fait, il aurait fallu avoir des investisseurs qui étaient prêts à perdre de l'argent pendant 3-4 ans.
Et on a eu la chance d'avoir de beaux investisseurs. Il y avait les studios américains Warner, M6 nous a accompagnés, Orange, mais alors que je suis vraiment très reconnaissant de leur soutien, c'est vrai que sur la question de l'Afrique, il y avait une peur peut-être plus marquée de perdre de l'argent sur ce marché-là, puisque c'est vrai que c'est encore un marché qui est incertain, alors que aucun média...
Alors qu'il serait capable d'investir, même à perte, pendant plusieurs mois, par exemple sur un continent européen où il faut prendre des positions parce qu'ils le connaissent bien.
Disney, par exemple, qui lance son service de streaming à la fin de l'année, a déjà annoncé qu'ils ont perdu 1 milliard de dollars alors que le service n'est pas encore lancé.
Et justement, vous le dites, en Afrique, en fait, souvent, vous avez l'impression qu'il y a une volonté ou il y a une tentation, disons, pour les gens qui s'intéressent à ce marché, de finalement essayer d'être rentable le plus vite possible, c'est-à-dire pouvoir inonder un nouveau public qui est anglophone souvent à l'Est et francophone souvent à l'Ouest. Et ça, c'est une approche qui fonctionne pas.
Elle n'a jamais fonctionné, puisqu'ils voient l'Afrique comme une terre d'expansion où ils vont pouvoir finalement prendre le contenu qu'ils ont produit en Europe ou ailleurs et juste le diffuser, le balancer. Aujourd'hui, on est...
Capitalisé sur un catalogue, quoi.
Tout à fait. On est sur un continent africain qui se réveille, est de plus en plus fier de ses origines, de ses créations et qui veut finalement se reconnaître. C'est pas par hasard que les réseaux sociaux cartonnent dans les pays africains parce que... sur ces plateformes-là, les gens peuvent communiquer leur culture. C'est un miroir, finalement, de leur société. Et c'est ce que les Africains veulent voir comme série, comme film. Donc aujourd'hui, quand les grands groupes français se lancent en Afrique, elles doivent produire du contenu localement. Elles doivent aller à la rencontre de ces compteurs et leur laisser une plateforme d'expression.
Mais alors justement, qui sont aujourd'hui les gens qui étaient vos concurrents à l'époque? Alors évidemment, il y a plusieurs questions. D'abord, est-ce que l'Afrique a aujourd'hui les capacités? Est-ce qu'il y a un marché suffisant pour le stream avec ce modèle? Vous l'avez dit, 6,99€, c'est quand même un prix important. Effectivement, on peut imaginer que la diaspora est capable de s'offrir, mais il y a aussi un problème de connectivité très idiot sur ce continent, qui fait que, pour le moment, le streaming vidéo n'est peut-être pas le meilleur moyen de consommer de la vidéo et du divertissement.
Tout à fait. Quand on parle d'Afrique, il faut vraiment prendre le temps de parler de pays, et même quand on parle de pays, ce n'est pas suffisant, il faut parler de ville. Donc quand on parle de capitale économique comme Lagos au Nigeria, Abidjan en Côte d'Ivoire, dans ces villes-là, il y a un potentiel de connectivité, ce qui est prohibitif pour des utilisateurs potentiels, c'est finalement le coût d'accès à cette capacité d'Internet. Et il est vrai que un abonnement illimité en Côte d'Ivoire coûte beaucoup plus cher que ce que nous pouvons voir en France. Donc il y a un travail à faire avec des entreprises comme Orange et autres qui sont installées en Afrique qui dominent le marché. Je pense que vous l'avez très bien dit, 6,99€, c'est un budget important pour une famille et la priorité n'est pas nécessairement d'utiliser cet argent pour du divertissement. Ça devient finalement important quand la proposition de valeur de cette plateforme est de diffuser des histoires inédites, locales, très fortes. Moi, je rêve de pouvoir donner accès à des histoires autour de Sankara et d'autres leaders africains qui finalement font rêver et qui sont emblématiques.
Parce qu'effectivement, c'est la stratégie que vous avez fait. En gros, être un petit pousset du streaming qui essaie de s'imposer tout seul, vous en avez fait l'expérience, que ce soit sur ce continent ou même dans d'autres, on l'a bien vu, y compris en France, c'est compliqué. Là, vous changez de stratégie. Maintenant, vous allez proposer des contenus à des acteurs qui sont déjà existants là-bas, notamment évidemment, et vous l'avez dit, peut-être une grande fresque autour de son cara figure ô combien symboliquement forte et culturellement fertile, ça on imagine. C'est qui ces acteurs aujourd'hui? On parle évidemment de Canal Plus Afrique, qui est très présent quand on va par exemple dans les rues de Dakar ou à Abidjan. Il y a aussi Iroko TV. Qui sont ces acteurs? Qui sont-ils? Est-ce qu'on parle plutôt de plateformes, ou est-ce qu'on parle vraiment de chaînes de télévision? Parce que c'est encore ça.
Alors, les grands concurrents aujourd'hui sur le marché, quand on parle de contenu africain...
Et ceux qui financent aussi la création?
Sont Iroko, parce que le modèle d'Iroko est très intéressant. Ils ont
Iroko
bien sûr...
TV, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est?
Donc, Iroko TV est une plateforme de streaming dédiée au contenu de Nollywood, donc le contenu principalement produit au Nigeria. Leur modèle est très intéressant, puisqu'ils ont aussi créé un studio de création qui s'appelle Rock Studio. Et comme la diffusion du contenu en ligne sur Iroko avait une croissance plutôt limitée, ils se sont aussi lancés dans la télévision à péage, ce qu'on appelle la pay TV dans le jargon, et en lançant trois chaînes, Rock 1, Rock 2, Rock 3. Et c'est sur un business model où l'opérateur qui crée justement ces chaînes-là, l'opérateur satellite, et le client, c'est lui qui achète la chaîne, donc il peut acheter la diffusion du contenu pour un an, pour plusieurs dizaines de millions de dollars, et Iroko produit le contenu et diffuse la chaîne. Donc c'est un modèle, inédit et très intéressant. Pour revenir au cœur de votre question, aujourd'hui les grands acteurs sont bien sûr Netflix.
Ils sont présents où, Netflix, aujourd'hui?
Ils sont présents aujourd'hui au Nigeria, en Afrique du Sud. Ils ont annoncé qu'ils allaient lancer des productions originales. La première qui est publique, publiquement annoncée, c'est celle qui sera produite en Afrique du Sud. Mais très prochainement, ils vont annoncer des choses au Nigeria, au Ghana et dans un second temps, en Afrique francophone. La force d'un acteur comme Netflix, c'est de comprendre qu'il faut absolument proposer du contenu original.
Et du contenu local, c'est ça?
Du contenu original, local, et qui s'adresse à une population qui est assez jeune. Vous avez parlé tout à l'heure de Canal Plus Afrique. Canal Plus Afrique a vraiment amélioré sa stratégie en Afrique en investissant déjà plus dans le contenu. On part de budgets très très faibles aux alentours de 20 000 euros maintenant plusieurs centaines de milliers d'euros par épisode. En moyenne, j'aime pas trop parler de chiffres, mais je pense que c'est important d'avoir une ordre d'idée. Quand vous voyez une série qui vous plaît, en général, un épisode a coûté environ 1 million d'euros.
Il y avait un manque d'ambition et là-dessus, ils sont en train de se corriger. Une dernière petite question, justement. Vous l'avez dit, là, on a parlé Netflix qui a visé tout de suite des pays anglophones en Afrique. Il y a un terreau assez fertile aussi en Afrique qu'on appelle francophone, même si là aussi, c'est très large. Notamment, vous l'avez dit, Abidjan, la Côte d'Ivoire, Dakar au Sénégal. Pourquoi est-ce qu'on les voit pas plus, justement, ces créations aujourd'hui?
On les voit pas plus parce que... aujourd'hui, on considère ces marchés comme des marchés trop petits, des marchés d'une dizaine, d'une vingtaine de millions d'habitants. Et si vous regardez sur des plateformes de partage comme YouTube, par exemple, là, vous voyez que ces vidéos sont vues des centaines de millions de fois.
Il y a un temps d'engagement très fort.
Tout à fait.
Sur une série en Wolof que tout le pays aura vue, mais comme elle est qu'en Wolof, seulement le pays l'aura vue. Mais elle existe, cette création, et elle est vivace.
Elle existe, elle est riche, la diaspora la consomme et commence à partager. En France, nous avons aussi des chaînes disponibles sur le câble qui diffusent de la série africaine.
Merci beaucoup, Tondré Bakang. On va suivre évidemment la suite de vos aventures et évidemment l'évolution de la stratégie d'acteurs comme évidemment Netflix et Amazon dans les prochains mois. Il y a beaucoup, beaucoup d'annonces sur ce continent africain qui excite toutes les envies. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci beaucoup.
20h12 sur France Culture.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h12 donc, le club de la presse numérique, et nous demanderons s'il faut lever l'anonymat en ligne ou sur les réseaux sociaux, et nous sommes pour en parler avec Amel Guiton de Libération. Bonsoir.
Bonsoir.
Romain Pigenel, ancien conseiller du président François Hollande et cofondateur de Futur.io.
Bonsoir.
Alors le président de la République, Emmanuel Macron, celui-là, a déclaré récemment qu'il n'était pas tellement favorable à l'anonymat au sujet des utilisateurs sur les réseaux sociaux sous des pseudonymes. Avec les pseudos, il devient difficile d'identifier les personnes avec qui on échange. Les arguments en faveur d'une levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux sont basés sur le fait que l'anonymat nuirait à la qualité des échanges sur Internet. En gros, si vous êtes sous pseudonyme, vous avez tendance, dit-on, on va en parler, à être plus agressifs, plus violents, etc. En revanche, ceux qui sont contre cet argument expliquent que ce n'est pas l'anonymat le problème, mais qu'il est important d'être anonyme quand, par exemple, on est employé et que l'on veut s'exprimer sans être vu par son employeur ou alors lorsqu'on discute de questions de santé, par exemple. Alors Emmanuel Macron a fait ses déclarations pendant les rencontres dans le cadre du Grand Débat sur RMC notamment. Mounir Majoubi, le secrétaire d'État en charge du numérique, a expliqué sur RMC qu'il était, lui, contre la levée de l'anonymat, évoluant d'une certaine manière dans sa position. Donc on ne sait plus trop, pour commencer avec vous Romain Péginel, on ne sait plus trop quelle va être la position de l'exécutif à ce sujet.
Oui, puis c'est assez inquiétant parce que bon, on peut se dire que le président de la République sait quand même de quoi il parle quand il lance ce genre de ballon d'essai. Et d'autant plus inquiétant que c'est un serpent de mer qui revient maintenant depuis de nombreuses années. Alors régulièrement, tous les 2-3 ans, on a le sujet qui revient sur le tapis, parfois amené par des acteurs politiques, mais aussi amené par les GAFA, puisque c'est notamment Mark Zuckerberg qui à plusieurs reprises avait
le patron de Facebook
argumenté longuement et de manière très affirmée pour dire que en gros quand on n'a pas honte de ce qu'on est, de ce qu'on dit, on doit être transparent, que la être sous sa vraie identité, c'est une condition sine qua non à avoir un débat de qualité. Donc c'est un sujet qui vient depuis longtemps, qui est d'ailleurs un sujet qui est extrêmement mal posé, parce que comme vous l'avez dit vous-même, vous avez employé les deux mots, on parle d'anonymat, or l'anonymat sur Internet n'existe quasiment pas. En général, on est sous pseudonymat, c'est-à-dire qu'on laisse toujours des traces, sauf à mettre en place des techniques qui sont en général pas utilisées par les internautes pour masquer ces traces. Donc on sait pas trop de quoi on parle. Et surtout, on a quand même le sentiment, quand ça arrive sur la table, que c'est toujours de la part de personnes qui auraient intérêt, qui auraient envie de limiter le débat ou d'entraver ce qui est quand même la principale force d'Internet, c'est-à-dire la capacité à pouvoir parler librement, sans qu'on sache qui on est, et à pouvoir assumer des positions parfois qu'on n'oserait pas dire dans la vie réelle, parce qu'on n'a pas le droit, parce que l'employeur nous l'interdirait, parce qu'on est issu d'une minorité qui est elle-même harcelée et en danger, etc.
Amal Guiton.
Ça donne assez furieusement l'impression que, pour le coup, Emmanuel Macron surfe effectivement sur une question qui revient un peu plus que d'habitude dans le débat public et avec des arguments qui sont problématiques parce que vous le disiez, le pseudonymat favoriserait les discours de haine, etc. Bon, il y a quand même des études qui
sérieuses, ouais.
Qui vont aussi à l'encontre de ce type de conclusion. Notamment, il y a un papier qui a pas mal recirculé ces deux dernières semaines qu'avait publié Le Monde. Je crois que c'est en 2016, des chercheurs de l'université de Zurich avaient étudié à peu près un corpus de 500 000 commentaires sur une plateforme de pétition en ligne allemande regardé la différence entre les commentaires pseudonymisés et les commentaires des gens sous leur vrai nom. Eux en tiraient plutôt la conclusion qu'en réalité, les gens qui intervenaient sous leur véritable identité étaient de fait plus légitimes à s'exprimer et du coup avaient un discours encore plus virulent. Alors, on peut avoir parfois l'impression de l'inverse, mais très honnêtement, il suffit de passer 5 minutes sur Twitter ou sur Facebook pour voir que Facebook ou l'usage du vrai nom est beaucoup plus courant que sur Twitter. Il y a des gens qui se lâchent et qui publient des commentaires qui, pour le coup, en plus, tomberaient très facilement sous le coup de la loi, sous leur véritable identité. Donc déjà, le simple fait de dire le pseudonymat favoriserait des discours plus haineux, etc., rien que ça, c'est contestable.
Alors l'argument ou les arguments de Mounir Majoubi, c'est notamment que l'arsenal législatif permet déjà d'identifier les personnes qui tiennent des propos condamnables sur les réseaux sociaux, 500 condamnations l'an dernier en France, techniquement. Il serait au fond impossible de mettre en place la levée de l'anonymat. Si une plateforme l'accepte, les utilisateurs iront sur une autre plateforme.
Surtout, ce que je trouve inquiétant, c'est effectivement quand on s'imagine, alors prenons l'hypothèse là, disons d'accord, on met en place une interdiction de l'anonymat, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez demander à tous les personnes qui contrôlent les plateformes Internet, une par une, parce que Internet ça n'existe pas, ça va être Google, ça va être Facebook, ça va être Twitter, de faire de la recolle d'identifiants. Donc très concrètement, ça
on
veut
va vous
dire
demander
que,
votre passeport. Donc,
voilà, ce qui est déjà un peu le cas d'ailleurs, puisque par exemple sur Facebook, de plus en plus, notamment pour les comptes officiels, etc.,
les
il faut,
pages, ouais.
Quand on veut faire certifier, donner un document d'identité, mais pour l'instant c'était quand même quelque chose qui était plutôt, on va dire, limité à des situations exceptionnelles. Ça veut dire que vous allez renverser la règle et faire en sorte que ces plateformes, dont par ailleurs on dénonce régulièrement l'usage abusif de nos données à des fins commerciales, etc., vont constituer un gigantesque réservoir de données permettant de leur mettre en corrélation la vraie identité d'individus plus tout ce qu'on sait sur leur goût, ce dont ils tuent,
avec
ce qu'ils
laissent,
etc.
Ouais.
Avec une pièce d'identité. Donc, il y a aussi une espèce de schizophrénie, parce que d'un côté, on nous dit il faut combattre effectivement la mainmise des GAFA sur nos données, etc., et là, on est en train de parler d'idées quand on réfléchit à leur implémentation concrète qui amènerait à donner en réalité encore plus de données à des acteurs privés ou alors le centraliser dans une entreprise d'État, et dans ce cas-là, c'est le modèle chinois. Donc, j'ai du mal à comprendre vers quoi on se dirige, si on essayait de prendre ça au sérieux et de dire comment on met en place, soit un modèle hyper centralisé à la chinoise avec une espèce d'identifiant social où l'État contrôlerait tout, soit remettre ça à des entreprises privées avec toutes les dérives au mieux commerciales, au pire politiques qu'on peut imaginer.
Amel Guiton.
On voit bien que non seulement ça pose un véritable problème, ce type de proposition en termes de liberté d'expression, non seulement ça peut fragiliser encore des communautés qui l'étaient déjà. L'exemple qui me revenait en tête juste avant de rentrer dans le studio, c'était en 2014. Facebook, justement, avait fait ce mouvement en disant à partir de maintenant, il faudra s'inscrire sous son vrai nom. Il y avait une réaction extrêmement forte de la communauté LGBT à l'époque pour dire mais vous ne pouvez pas faire ça, vous ne vous rendez pas compte des conséquences que ça aura. Donc il y a aussi ce problème-là. Et puis alors effectivement, comme le soulevait Romain Pigenel, ça pose la question de qui est le provider d'identité, qui est le vérificateur. J'avoue que ce qui a tendance à m'inquiéter en réalité, c'est que je trouve que de la part de l'exécutif, d'une manière générale, il y a une vraie volonté d'établir un dialogue avec les grands acteurs de l'Internet américain, parce que finalement c'est plus facile d'avoir deux ou trois interlocuteurs que de devoir gérer effectivement la multitude de l'Internet. Et j'ai l'impression que finalement tout ça va assez bien ensemble, ce qui est assez problématique. Alors Frédéric, vous allez me dire que c'est un peu ma marotte, mais
j'allais le dire.
D'une certaine manière, on a l'impression que, comme l'a fait Emmanuel Macron, dire « Ah, les fake news, c'est un problème, il faut donc lever l'anonymat », c'est aussi une manière de ne toujours pas se poser la question de l'infrastructure des réseaux sociaux et de comment l'infrastructure telle qu'on la connaît, avec des acteurs qui ont les modèles économiques qu'ils ont et les logiques algorithmiques qu'ils ont, avec des acteurs qui, de fait, favorisent techniquement et la propagation des fausses informations et les phénomènes de hate mobs, comme on dit, les foules haineuses, le harcèlement de femmes ou de journalistes ou de personnes discriminées sur Twitter. Et effectivement, parler de l'anonymat, du pseudonymat, est une manière, de nouveau, de ne pas se poser cette question, parce que ça donne quand même l'impression que le gouvernement ne veut pas se la poser aussi.
Alors on peut prendre des exemples, je pense à Wikipédia, qui fonctionne très bien avec l'anonymat des contributeurs, qui sont régulés, il y a des outils pour réguler. Il y a aussi la question du grand débat lui-même, c'est une plateforme pour le grand débat et les gens y sont souvent de manière anonyme, donc est-ce qu'il faudrait que ce ne soit plus le cas? On peut prendre tout un tas d'exemples et on voit que peut-être finalement on ne peut pas répondre de manière systématique à toutes les problématiques qui émergent autour de ce débat, Romain Pigenel.
J'ai envie de souligner deux points. D'abord, vous parliez du grand débat. Alors, sur la première plateforme qui avait été mise en place c'était quel organisme dont le nom m'échappe, le Conseil économique et social, il y a quelques mois, il y avait eu une problématique d'astroturfing. Donc apparemment, il y avait d'ailleurs ça avait été assumé après, des courants proches de la Manif pour tous qui avaient totalement inondé la plateforme du Conseil, en l'occurrence, avec des propositions pour l'abrogation du mariage gay, etc.
Alors, qui n'était pas du tout celle des Gilets jaunes.
Voilà. Donc c'est un argument qu'on met souvent en place pour dire il faut lever l'anonymat, c'est pour faire sauter toutes les tentatives d'astroturfing. Mais il y a quand même une immense hypocrisie, parce que qui organise l'astroturfing en vérité en France depuis des années? C'est les partis politiques eux-mêmes qui ont systématiquement mis en place des stratégies où on déploie des militants en leur disant prenez des fausses identités, protégez-vous, parfois animez plusieurs comptes. Donc c'est quand même formidable de voir le monde politique qui crie au scandale sur l'anonymat, alors que par ailleurs, et c'est, tout le monde le sait, c'est un secret de Polichinelle, les partis organisent massivement ce type d'action. Donc déjà, c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable, et encore une fois, tous les partis ont fait, donc je pense qu'il faudrait déjà commencer par balayer devant sa porte. Autre remarque, toujours sur la question des débats, il y a quand même quelque chose qu'on dit pas assez par rapport à l'anonymat, c'est qui permet, ou pseudonymat, ce qui permet aussi justement une libération de la parole, une créativité qu'on n'aurait peut-être pas justement, et parfois aussi un peu dans l'extrême. Et il y a quelques années, on en parlait tout à l'heure, quand Zuckerberg, la première fois, avait pris ses positions en faveur de l'anonymat, il y avait quelqu'un qui lui avait répondu, qui était le créateur de ce forum américain dont le nom m'échappe, avec le slash B, etc. Comment ça s'appelle,
c'est 4chan.
Voilà, 4chan, et qui avait tenu, je vous invite à relire ses propos, des propositions assez intéressantes en réponse à Zuckerberg, et disant mais justement le pseudonymat, c'est aussi le droit à l'erreur, c'est le fait de faire de la créativité, d'oser aller tenir des positions parfois peut-être extrêmes mais qu'on tiendrait pas sous son vrai nom, etc. Donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant si on veut vraiment avoir un bouillonnement des échanges de positions dans le cadre de débats sur Internet ou ailleurs, qui n'aurait pas la même vivacité si chacun était tenu à sa vraie identité. Imaginons que le vote ne soit plus à bulletin secret, par exemple, mais sous son vrai nom, lié à la...
D'une certaine manière, le vote est un bon exemple, parce que là, on a quelque chose qui est secret, mais qui n'est pas anonyme. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne sait pas pour qui vous allez voter, mais en même temps, votre identité est contrôlée.
On sait que vous votez, mais pour autant, on ne sait pas ce que vous avez, on ne sait pas ce que vous avez mis dans l'urne, ce qui est quand même assez fondamental.
Amal Guiton, est-ce que ça existe l'anonymat au fond? Est-ce que aujourd'hui, quelqu'un qui aurait créé une adresse, même email, c'est possible d'ailleurs sans être repéré, mais avec tout un tas d'autres systèmes de vérification, en réalité, l'anonymat existe très très peu et comme on l'a vu, je l'ai dit, beaucoup de personnes ont été condamnées alors qu'elles étaient sous pseudonyme. Donc en fait, on les retrouve dans les cas les plus graves. Si vous sur un site de rencontre vous draguez quelqu'un et vous l'assassinez après, eh bien on vous retrouve généralement.
L'anonymat existe sur Internet, mais il demande des efforts et c'est bien pour ça qu'en réalité les gens qui réussissent à rester anonymes en ligne sont une minorité et ça concerne absolument pas la plupart des usagers des réseaux sociaux par exemple qui laissent à minima effectivement
leur adresse IP, leur téléphone.
Et c'est effectivement comme ça que quand il y a des plaintes par exemple pour du harcèlement en ligne, on remonte manifestement assez facilement aux auteurs. Enfin, il y a eu des condamnations récentes, etc. Non, je voulais juste revenir sur cette histoire. Effectivement, c'est de la position de Mounir Majoubi, hein, de dire, alors lui il dit clairement c'est ni possible ni souhaitable de lever l'anonymat, mais il avait l'air de dire que finalement sur les sites de démarche publique ça pouvait se poser. Mais ce qui est assez étrange, c'est que en réalité moi j'ai en tête un exemple assez intéressant de démarche comme ça de consultation. Bon, elle avait ses limites, hein, mais c'est la loi République numérique où il y avait une plateforme et où les internautes postaient des propositions, etc. Il y en avait qui le faisaient sous pseudonyme. Et puis, il y avait aussi des structures en tant que telles qui proposaient des amendements à ce texte, le défendaient, etc. Des sociétés de droits d'auteur, par exemple, des associations de défense des libertés. J'ai pas du tout eu l'impression que la possibilité du pseudonymat nuisait d'une quelconque manière à cet échange, mais qu'au contraire, il y avait d'une certaine façon une forme d'auto-régulation du débat. Alors, ça veut pas dire que ça n'a eu que des effets positifs, hein, puisqu'il y a des propositions qui étaient très portées sur cette plateforme qui n'ont pas eu de traduction législative. Mais en tout cas, en termes de dynamique d'un débat organisé sur Internet, il me semble qu'il y a des choses à aller chercher de ce côté-là. Et peut-être notamment aussi parce que les questions étaient ouvertes, alors que, ça c'est encore un autre débat, mais la plateforme du Grand Débat National, en termes de consultation, entre guillemets, la manière dont c'est rédigé pose aussi question. Et que ce soit pseudonymat ou pas, très honnêtement, je pense que ça n'est pas le fond du problème de cette plateforme.
Donc au fond, l'un et l'autre, pour conclure, vous remettez un peu en cause l'idée, le dilemme un peu traditionnel, plus de sécurité, moins d'insultes, pour moins de liberté, moins de possibilité de s'exprimer, pour aller vite.
D'autant plus que comme chaque fois, admettons qu'on mette en place encore cette règle-là, et je crois qu'on a bien dit les uns les autres combien c'était en plus extrêmement compliqué à faire, qui au bout du compte pourra continuer à agir comme il veut en se cachant? Ça sera les personnes qui seront vraiment nuisibles, parce que ceux qui bénéficient vraiment de l'anonymat pour faire des actes délictueux, etc., ils auront toujours les moyens d'aller chercher des façons de cacher leurs traces, etc. En revanche, ça sera comme toujours, effectivement, la grande majorité des Français qui, peut-être parfois avec des excès, mais prennent librement la parole, qui seront, par rapport à ça, complètement castrés, si j'ose dire, dans leur capacité de prendre la parole. Donc c'est quelque chose qui n'empêchera en rien les comportements les plus graves et les plus délictueux, mais qui limitera de manière totalement insensée et grave, de mon point de vue, la liberté publique.
Amal Guiton, pour conclure.
Et moi, je persiste à penser que c'est aussi une manière de cacher le fond du problème. C'est-à-dire, il y a effectivement des propos haineux en ligne, il y a ces phénomènes de harcèlement de masse, etc. Il y a de la circulation de fausses informations, oui, mais il faudrait peut-être se demander pourquoi, avant de vouloir résoudre le problème en levant l'anonymat, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a effectivement cette crise de confiance dans les médias, pourquoi est-ce qu'il y a... ces phénomènes de harcèlement, c'est quoi aujourd'hui les logiques de circulation de la parole et de l'information sur les grandes plateformes, qu'est-ce qu'on fait de ces acteurs-là, à quel moment est-ce qu'on va enfin se poser la question de construire des contre-modèles par rapport à ce qu'ils sont. Ça me semble beaucoup plus urgent que de débattre de la question de l'anonymat et du pseudonymat.
Mais on a néanmoins débattu ce soir.
Oui, non, mais ne serait-ce que pour rappeler qu'effectivement ça ne résout rien et que par ailleurs ça pose des problèmes de liberté d'expression très profonds.
On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à vous deux, Amal Guiton, journaliste à Libération, Romain Pigenel, ancien conseiller du président Hollande et cofondateur de Futur.io. On se quitte avec un dernier extrait en hommage donc à Michel Legrand, les Demoiselles Rochefort, l'arrivée des camionneurs. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone et désormais sur Spotify, je crois aussi, Soft Power. Demain soir, dans la dispute, on rendra hommage à Michel Legrand également. Et dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. Puis j'ai encore le temps de vous signaler que l'avocat Henri Leclerc, maître Henri Leclerc, sera l'invité des matins de France Culture. Demain donc, à ne pas rater dans la matinale de France Culture. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end, mesdames.